pour planète, changer le monde est à notre portée.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Music for Planet. Alors aujourd'hui, je rencontre Pierre Gilbert. Pierre, peut-être avant de commencer notre rencontre, où est-ce qu'on est là aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est dans les nouveaux locaux de Sator, enfin plus particulièrement les locaux qu'on partage avec un atelier, enfin un cabinet d'architectes, le cabinet Cambium, voilà, qui nous met à disposition une partie de leur espace inoccupé en échange d'un coup de main sur leur politique RSE.
Alors Pierre, on s'est rencontrés lors d'une plénière de clôture d'un salon parisien qui s'appelle Produrable, où on avait invité Emmanuel André, qui est le directeur de l'Opéra National de Bordeaux. Et si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas tout à fait sûr, mais cette plénière de clôture était autour des nouveaux récits nécessaires pour engager des transitions diverses et variées, et bien entendu qui nous concernent les transitions écologiques. Et tu nous avais parlé beaucoup des sujets plutôt de l'ordre du cognitif, de l'émotion. Peut-être en quelques mots, cette plénière, quelle était ton intervention ?
Alors, si ma mémoire est bonne, parce qu'entre-temps, les semaines ont passé, puis les conférences se sont enchaînées. Mais alors, moi, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est l'importance du rôle des émotions. C'est-à-dire que l'être humain est très émotionnel et peu rationnel. L'émotion, c'est le langage de l'inconscient. La raison, quelque part, c'est le langage du conscient. Et notre cerveau inconscient, il est beaucoup plus puissant que notre cerveau conscient. On l'est largement déterminé par notre inconscient. Notre inconscient, c'est un peu notre super pilote automatique, c'est un peu notre gros disque dur interne qui nous facilite énormément la vie. S'il fallait conscientiser toutes les décisions qu'on prenait, chaque jour, on s'en sortirait pas. On prend 35 000 décisions par jour. 99,74% de ces 35 000 le sont par notre inconscient.
Le 64,74 est précis.
Voilà, toujours dans la précision. Mais alors, du coup, ça se comprend bien. S'il fallait conscientiser le fait que je prends ce verre de café, que j'ouvre la poignée de porte, etc., je me comporterais dans l'espace un peu comme un robot. Je ne serais pas très adapté à mon milieu. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'inconscient. Hein, et finalement, assez peu qui passent par le conscient. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que pour opérer de la transition chez les individus, c'est important de passer par les émotions. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a tout un tas de manières de passer par les émotions, entre autres la musique.
Bon, on est déjà dans le vif du sujet et vous voyez un petit peu pourquoi on se rencontre avec Pierre, mais peut-être avant d'aller plus en avant, Pierre, qui es-tu ?
Alors,
quel est ton parcours ? Parce que tu es très prolixe, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. On est là pour se parler de Sator aussi, mais
en quelques mots, qui es-tu ? C'est un parcours qui est peut-être un petit peu atypique, donc j'ai 29 ans. Originaire du Calvados et puis parisien depuis 7 ans maintenant, j'ai fait mes études supérieures à Grenoble, à Sciences Po Grenoble et en double cursus pour mon master avec l'école polytechnique de Grenoble. C'était le premier master historiquement en France à mi-chemin entre les sciences molles et les sciences dures quelque part autour de la transition, mais en gros essayer de comprendre à la fois les facteurs humains de la transition mais aussi avoir des notions de sciences autour de ça, autour de l'énergie, autour de la biologie, etc. Donc voilà pour mes études. Ensuite, j'ai fait de la prospective en matière de risques climatiques pour le ministère des Armées. Ça, c'était mon premier travail, que chercheur opérationnel, quelque part. Donc là, l'idée, c'était d'expliquer au ministère des Armées comment le changement climatique allait accroître des risques sécuritaires dans les zones qui intéressent le ministère des Armées, typiquement au Sahel. Comment est-ce qu'au Sahel, l'avancée du Sahara, dynamisée par le changement climatique, fait que vos éleveurs peuls doivent opérer leur transhumance de millions de têtes de bétail vers le sud du Mali, typiquement, plus tôt dans l'année, et que du coup les millions de têtes de bétail empiètent sur les cultures avant leur récolte. Des cultures qui sont perpétuées par des agriculteurs sédentaires, des Bambara ou des Dogons. Et donc là-dessus, si vous rajoutez la donnée ethnique sur une rupture de cycle, parce qu'avant les troupeaux arrivaient après les récoltes, donc fertiliser la terre et les ethnies troquées, de la viande contre des produits agricoles, donc tout était bien combiné. Et bien maintenant, avec le changement climatique, les troupeaux empiètent sur les récoltes, avant que, voilà, et ça termine en tir de Kalachnikov, saupoudré de le politique qui instrumentalise ces conflits ethniques pour des questions de rente électorale, souvent comme ça, et donc qui envenime les choses. Donc voilà un peu ce qu'on, le genre de choses qu'on a expliqué. Il se passe des choses assez similaires autour du lac Tchad où l'évaporation, le lac a perdu 90% de son volume, et en gros cette diminution de l'eau disponible a entraîné une crise agricole qui elle-même a paupérisé beaucoup d'agriculteurs qui, n'ayant plus de revenus de leur récolte, en fait, se font embaucher très facilement par Boko Haram qui paye cash ces mercenaires. Donc là encore, le djihadisme, quelque part, prolifère sur la pauvreté qui est accélérée par le changement climatique. Donc c'est une autre donnée de comment est-ce que le changement climatique nous insécurise, crée les conditions d'un monde qui est de moins en moins sécur. Donc voilà ce que je faisais en tant que prospectiviste, risque climatique. Et j'ai continué là-dedans, ensuite, à mon compte, en consultant pour des entreprises de toute taille, des ministères aussi. J'ai toujours été passionné par les solutions plutôt que les problèmes. Donc j'ai sorti un bouquin il y a 3 ans qui s'appelle « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature ». Il était préfacé par Gaël Giraud, qui est publié au Petit Matin, dans lequel je faisais un panorama de l'ensemble des puits naturels de carbone, donc les forêts, les sols agricoles, les zones humides, le permafrost, les fonds biologiques océaniques, les animaux marins, mais en gros, essayer de comprendre comment, si on se donnait les moyens de renforcer ces puits naturels-là, de renforcer la biodiversité, combien de CO2 on pourrait capter. Voilà. Donc j'ai modélisé un peu tout ça, quelque part, sur la base de centaines de travaux scientifiques dans chacun de ces puits-là. Donc j'en ai fait un panorama, et donc ça a donné ce bouquin qui m'a aussi ouvert une carrière de conférencier, d'intervention médiatique, parce que une partie du bouquin, Géomimétisme, c'est le contre-récit à la géo-ingénierie, donc les gens qui veulent modifier artificiellement le climat avec de la technologie. Et donc je continue à tenir la tranchée avec d'autres copains chercheurs sur ce sujet-là en France, parce qu'on n'est pas beaucoup à s'y intéresser. Pourtant la géo-ingénierie, c'est une controverse majeure du climat qui est en train de grossir. Ce qu'on appelle les techno-solutionnistes qui nous disent « on va continuer à émettre vraisemblablement, et quelque part c'est pas si grave parce que la technologie salvatrice arrive », ce qui est complètement faux. Mais c'est une manière pour eux de gagner du temps business as usual. Et quand on creuse un peu, derrière eux, il y a les pétroliers. c'est toujours pareil, l'histoire de l'eau.
L'approche de géomimétisme, y a un sujet anthropocentré. Quel est le rôle de l'homme dans ce sujet-là? Ou alors on est plutôt sur du laisser-faire la nature. Je parlais des forêts tout à l'heure. Tu sais que Baptiste Morisot prône beaucoup le fait que le foncier, en achetant des terres et en bloquant le fait la capacité de construire sur ces terres-là pour être une solution demain, en critiquant des zones de protection telles qu'on pourrait les avoir sur des zones Natura 2000, etc. Comment tu positionnes le géomimétisme?
Le géomimétisme englobe tout ça. En fait, c'est le biomimétisme au service du climat, donc c'est l'ensemble des politiques publiques qu'on peut faire concrètement pour protéger, renforcer ou reproduire les puits naturels de carbone. Dans ça, il y a protéger, c'est-à-dire que quand on parle de reforestation, par exemple, en fait, dans beaucoup d'endroits du monde, pas dans tous, mais par exemple en Amazonie, voilà, ce qui fonctionne le mieux, mais même sous nos latitudes tempérées, ce qui fonctionne le mieux, c'est la régénération naturelle, assistée ou non. C'est de laisser la forêt se redéployer par elle-même au gré de ces graines dispersées par les oiseaux, etc., et de ne pas toucher. Donc ça, c'est de la régénération passive. C'est très efficace. Dans d'autres endroits, par exemple au Sahel, ou dans les zones semi-désertiques, il faut planter pour réamorcer le cycle vertueux des arbres qui émettent leur propre humidité. Donc il faut être actif. Donc voilà, à chaque fois, on a des techniques de géomimétisme qui sont différentes, qui sont plus ou moins passives, plus ou moins actives. Il faut calibrer en fonction des réalités de terrain. Et pour finir du coup ma présentation sur ce qui m'occupe davantage aujourd'hui, alors moi j'ai prolongé mes travaux de recherche parce que j'ai une âme de chercheur et de passeur et de vulgarisateur, donc notamment autour de ces manifestes pour une écologie culturelle où justement on s'intéresse un peu au rôle des émotions dans la transition. Moi j'y apporte un côté un peu plus un angle plus neurosciences et psychanalyse, qui sont deux champs qui me passionnent, en plus des sciences nattes, on va dire. Je ne suis pas expert de ces sciences-là, mais par contre, je dialogue beaucoup avec des experts, et j'essaie de faire les ponts, quelque part, avec l'écologie, avec la politique, avec un grand P, de la transition. Voilà, comment est-ce qu'on accélère tout ça. Donc ça a donné naissance à quelques manifestes, on en a eu 3, d'écologie culturelle. Voilà, j'en fais des conférences aussi. Il y a eu Pro Durable, il y a eu une exposition que j'ai faite à la Biennale Amour Vivant, S'élever grâce au vivant, il y a eu tout un tas de choses. Mais ce qui m'occupe le plus clair de la journée, c'est Sator.
Alors, qu'est-ce que Sator ?
Alors, Sator, c'est une jeune entreprise qu'on a cofondée avec mon associé Jérémy Giraud, il y a un an et demi, dont le but est de produire et diffuser un ensemble de grandes masterclass dédiées aux transitions ou aux outils pour perpétuer ces transitions. En gros, on va chercher les plus avant-gardistes dans leur domaine, ceux qu'on estime être, et on travaille avec eux un certain nombre de semaines pour, in fine, tourner une dizaine d'heures de cours en épisode d'une demi-heure. Donc ça se regarde comme une série Netflix, une belle post-prod, etc. Voilà. Et puis surtout, une ingénierie pédagogique qui fait que vous ne voyez pas passer vos 10 heures, vous êtes complètement emporté par le professeur dans son sujet, avec une vraie vision structurée et le temps pour ça. Nous, on dit que voilà, par rapport à des enjeux sérieux comme ceux du changement climatique, mais pas que, hein, toutes les grandes transitions, à un moment, il faut se former sérieusement. Et se former sérieusement, ça prend du temps. Il n'y a pas le choix. À un moment, faut faire les efforts pour. Et l'entreprise est le bon lieu pour ça. C'est-à-dire que le plus une entreprise mise sur la conscientisation de ses collaborateurs, le plus la structure monte en degré de conscience. C'est mathématique. Et le plus elle est susceptible de bien manœuvrer dans un monde en chamboulement permanent. Voilà. Donc nous, voilà, on a produit à ce stade-là 9 masterclass. La dernière en date, c'est sur les enjeux de l'eau, par exemple, avec l'hydrologue Charlène Descollonges. On a la transition énergétique avec Alexandre Joly de Carbone 4. On a l'art de la stratégie avec le général Vincent Desportes, parce que oui, pour conduire une transition, il faut être un bon stratège. Et là, on sort bientôt donc, la version 3 du site où on annonce une quinzaine des prochains cours qui vont de l'économie de demain par Gaël Giraud à la puissance de l'entraide par Pablo Servigne ou le pouvoir de l'amour par Stéphanie Briand. Voilà, c'est une amplitude de sujets assez importante, mais dont le fil conducteur sont les transitions au sens large et les outils pour les conduire. L'amour, c'est un fantastique outil. Stéphanie Briand, elle les présente de manière très opérationnelle. C'est ça qui est un peu nouveau. Nous, on va vraiment chercher comme ça à trouver des sujets qui seront les plus importants dans les prochaines années et à livrer des caisses à outils. Donc, n'importe qui peut acheter son cours Sator hein, sur la plateforme et n'importe quelle entreprise peut acheter un plan de formation, en gros, un nombre de licences Sator, certifié Calliope, mais pour former ses collaborateurs. On travaille aussi avec la puissance publique, aussi avec des écoles, des universités, avec des élus, des collectivités, parce que ce format-là, il est déclinable à l'infini, quelque part.
Super. Du coup, je rebondis sur la plateforme et la puissance de l'émotion. J'ai l'impression que tu mets dans ton parcours, et ça s'inscrit maintenant, et ça s'ancre dans ce qu'est la plateforme Sator, beaucoup d'éléments scientifiques qui pourraient être soit piochés dans ce que tu as appelé tout à l'heure les sciences molles, effectivement le côté un peu social, émotion, cognitif, mais je pense que tu reviens assez rapidement sur des sciences dures parce que tu as beaucoup illustré ton propos avec des faits, avec des chiffres, avec des productions académiques. Tu illustres beaucoup ce qu'on a un peu touché du doigt lorsqu'on a fondé Music for Planet, qui était, mais finalement, on parle tous un peu de transition, en tout cas certains d'entre nous, peut-être un groupe encore très réduit de gens qui se croient conscients, mais on a du mal à essaimer plus largement auprès des citoyens. On voudrait que tous les citoyens aient un certain niveau de conscience et soient tous éco-citoyens à certains degrés. Et dans Music for Planet, on s'est dit, mais tiens, quoi d'autre qu'une émotion procurée par la musique, puisqu'elle est fédératrice, puisqu'elle va parfois à l'encontre des messages sur l'écologie qui sont assez plombants, assez fin du monde, assez techniques. Et du coup, comment tu perçois un peu cette lecture-là, peut-être plus globalement sur le rôle de l'émotion ? Tu en parlais tout à l'heure. Les émotions et l'art, le rôle de l'art dans les transitions, et pourquoi pas ensuite un cran supplémentaire sur la musique.
Waouh, j'espère que tu es prêt pour le tunnel.
Vas-y.
Alors, bon, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas une recette magique pour conscientiser, pour convaincre tout le monde de la nécessité du changement. Déjà parce que les gens ont un rapport différent au changement. Ce que nous disent les sociologues, c'est que quel que soit le public que vous, voilà, auquel vous vous intéressez, quel que soit le changement que vous voulez opérer, vous aurez toujours 15% des gens qui seront très partants, parce qu'ils ont un rapport ludique au changement. 70% de ventre mou qui acceptera le changement parce qu'on lui impose, et 15% de réfractaires au changement. C'est une courbe de Gauss.
Ouais.
C'est, voilà. Et ces réfractaires au changement, dès que vous leur parlez de changement de comportement, de changement d'habitude, tout de suite ils se crispent, tout de suite ils se cabrent, parce que inconsciemment pour eux, c'est potentiellement un danger. Le changement égale danger. Souvent, alors ça c'est ce que nous disent les sociologues, hein, qui font des études statistiques, ce que nous disent les psychologues et les psychanalystes qui passent derrière quelque part, c'est que pourquoi est-ce que ces 15% sont réfractaires au changement ou que ces 15% ont un rapport ludique au changement? Eh bien, souvent, il y a des choses qui se passent pendant la petite enfance. Voilà. Il y a ou des petits-enfants qui ont été bien sécurisés par leurs parents. Les premières années sont éminemment importantes en termes de plasticité cérébrale. Hein. C'est là où plus l'enfant est jeune, plus il doit faire vite des connexions entre ses neurones pour être le plus opérationnel possible dans son monde. Ça se comprend. Donc, vous avez une plasticité qui décroît au fil des années, de manière presque exponentielle. Et donc qui n'est pas figé, on a toujours de la plasticité cérébrale, hein, même quand on est âgé, c'est important de le rappeler. Mais voilà, donc on a des petits-enfants qui, tantôt, ont été bien sécurisés par leurs parents, donc qui peuvent se permettre la découverte, qui peuvent se permettre d'incorporer une dose de changement, voilà, qui alterne entre découverte et sécurisation, voilà, et donc pas de problème a priori avec le changement. Le changement n'est pas un danger, parce que bah, je sais que derrière j'ai de la sécurité si besoin. Et pour ces gens-là, le changement peut même être ludique. C'est amusant d'opérer des changements dans son quotidien. Et à l'inverse, les gens qui sont réfractaires au changement, bah, souvent on découvre que c'est des enfances, des petites enfances qui sont insécurisées. Donc le changement est souvent associé à un danger de mort, inconsciemment. Bon, c'est plus complexe que ça, évidemment, parce que là-dessus se rajoutent des dimensions transgénérationnelles. On hérite aussi de traumas de nos grands-parents, de nos parents, de nos aïeux, enfin, de nos arrière-grands-parents. Donc voilà. Mais pour schématiser, voilà, vous avez 15% de pro-changement, 15% de réfractaires. Et le but, si vous voulez opérer un vrai changement majeur dans votre société, c'est de passer de 15 à environ 20-25. Là, vous entraînez une masse suffisante pour, en effet domino, faire tomber le gros, vos 70%, là, et opérer votre véritable saut quantique, votre changement de phase dans la société. Et souvent, les changements commencent comme ça. Vous avez une toute petite minorité active qui SM, qui passe de 3 à 15%, et à 25%, et ensuite à 80%. Donc voilà ce que nous disent un peu les sociologues. Et moi, ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas une recette universel pour transformer ces 70% en gens qui changent. Pourquoi ? Parce que chacun n'est pas sensible au même truc, par définition.
Et tu le disais aussi tout à l'heure que finalement, l'homme n'est pas rationnel, on a tous en tête, tu vois, par exemple, le film Don't Look Up, qui a fait beaucoup parler récemment, il y a le cas des paquets de cigarettes où c'est marqué « fumais-tu ?». Donc tout le monde sait que « fumais-tu ?», c'est pas pour autant que tu vas t'arrêter de fumer, ou tu sais qu'au bout du compte, il y a des enjeux climat, et pourtant dans certains choix de consommation, tu vas prendre peut-être un choix de surconsommation versus autre chose. Donc il y a la notion d'être réfractaire au changement, mais aussi la notion de à quel moment, quand je suis conscient, cette conscience me fait passer aussi à l'action.
Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que comme je l'expliquais, on n'est pas sensible aux mêmes choses, et il y a beaucoup de nos cordes de sensibilité qui se mettent en place aussi pendant la petite enfance par le contexte social. Donc ça rejoint un peu les travaux de Bourdieu, mais c'est vrai que si vous entendez de la musique classique depuis tout petit, il y a de fortes chances que vous développiez une appétence pour ce type de musique. Mais ça peut être un type de sport, ou n'importe quoi, ou de la littérature. Bon. Donc on a une partie des goûts culturels comme ça. Et donc forcément, plus tard, si moi je suis un mélomane extrêmement sensible à la musique dans mes tripes, la musique peut être un bon vecteur de transition pour moi si en fait l'artiste effectivement que j'écoute se met à me parler d'écologie. Ouais, ok, il entre dans une porte de sensibilité. Voilà. Vous avez d'autres personnes, ça va pas du tout marcher. Moi par exemple, je suis pas forcément mélomane, je n'ai pas écouté beaucoup de musique quand j'étais très jeune. Moi, ce qui va me parler, c'est plutôt justement le côté plus rationnel. Tu me parlais de biomimétisme et de comment est-ce que l'ormeau constitue sa carapace entre feuilles de calcaire et chitine, et qu'en fait, c'est aussi solide que le blindage avant du Charles Leclerc. Moi, ça me passionne. Et c'est ça qui va m'amener à l'écologie. Voilà, chacun a sa route. Donc, il n'y a pas un grand récit de la transition. Il y a beaucoup de petits récits spécifiques. Et notre rôle à nous, c'est de fédérer une gamme d'acteurs qui soit assez diversifiée pour produire beaucoup de ces nouveaux récits. Voilà. Et ensuite, se pose la question de la prise du pouvoir, parce qu'à un moment, vous pouvez déployer tous les nouveaux récits que vous voulez, mais c'est aussi les lois qui doivent changer pour que, structurellement, la société se décarbone et la société devienne plus égalitaire et plus heureuse. Voilà. Donc ça, c'est le verrou politique. Donc à un moment, tous ces nouveaux récits qui convainquent des personnes qui tantôt sont sensibles à l'art, tantôt sont sensibles à la science, etc., il faut le faire converger autour d'un récit socle. Et souvent, ça se fait pendant l'élection présidentielle. C'est incarné par un candidat. De toute façon, c'est souvent, les choses sont souvent incarnées. L'être humain est comme ça. On s'identifie. Alors, on est de papa-maman jusqu'à le Christ, en passant par le général de Gaulle ou n'importe qui, en fait, on attend toujours une figure tutélaire auquel se rattacher, ou un artiste, ou un influenceur, pour les... Bref. Donc, l'être humain cherche des figures d'incarnation. Donc, voilà. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait converger à des instants T, qui sont des instants chauds politiquement, autour d'un récit commun. Bon. Donc, voilà. Moi, j'essaye de ne pas perdre ce fil entre la politique avec un grand P, la question culturelle des nouveaux récits, de cette myriade de nouveaux récits. Et nous, dans l'écologie culturelle, ce qu'on raconte, c'est que pour construire ces nouveaux récits, on peut aussi puiser dans notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de notre histoire qui est déjà écolo et qu'on méconnaît. Et soit la Révolution française, par exemple, est fondamentalement écologique. On ne sait pas du tout, mais en gros, la Révolution française, quelque part, c'est le continuum politique d'un clivage philosophique entre Rousseau et Descartes, si on schématise. Rousseau, il dit l'être humain est naturellement bon, la nature est naturellement divine. Le divin est dans toute chose qui vit. Rousseau, quelque part, il se reconnecte à toutes les traditions spirituelles des peuples premiers, aux traditions celtiques, etc. Toutes les traditions animistes qui disent que dans chaque être vivant, il y a du divin. On vient tous d'une énergie primordiale, elle s'incarne dans différents... Donc si l'être humain est naturellement bon, puisqu'il est naturel, il a le droit à des droits inaliénables, par l'acte même de naître. Donc ça va donner plus tard les droits de l'homme, les droits universels, la préambule de la Constitution de 93. Donc, si vous voulez, c'est Robespierre qui traduit politiquement les travaux de Rousseau. Robespierre était un grand lecteur de Rousseau. Et en face de ça, en face de Rousseau, vous avez Descartes qui dit que, selon la tradition de l'Église, Dieu a fait l'homme à son image. Le divin, il n'est pas dans le vivant, le divin, il est dans l'homme. Et du coup, son environnement, la nature, est au service de l'homme. L'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. L'animal est une machine. Des schémas pour illustrer les propos de Descartes, où vous voyez un lapin qui est coupé en deux et vous voyez comme des engrenages dedans. C'est pour symboliser un peu la pensée de Descartes. Et donc l'homme doit se servir de cette nature. Donc, vous voyez que là, vous avez une controverse ontologique, si vous voulez, entre ces deux grandes visions du monde, et on est encore dedans, quelque part. Et ce que je vous racontais sur géomimétisme contre géoingénierie, c'est aussi ce clivage-là. Donc je m'éloigne un tout petit peu du sujet, mais tout ça pour dire que voilà, dans notre histoire, pendant la Révolution française, par exemple, on débaptise tous les jours, on les rebaptise au nom d'éléments naturels. C'est le jour de la carotte, le jour du navet, le jour des pommiers, voilà. Les mois deviennent des éléments naturels. C'est pluviose, ventose, fructidor. C'est comme si on avait essayé de réencastrer dans les cycles naturels notre calendrier, en fait notre culture, notre substrat de culture. On adopte le mètre comme unité de mesure, parce que le mètre, c'est une unité de mesure intéressante que vous retrouvez. Donc vous retrouvez les rapports mathématiques beaucoup dans la nature, autour du nombre d'heures, etc. Bref. Donc voilà, ça, on méconnaît cette partie-là de notre histoire. Pourtant, la République en France, c'est ce qui a structuré jusqu'à notre quotidien. La France, la République, voilà, bref.
Bon. Et du coup, on méconnaît si beaucoup de choses étaient dans la genèse d'éléments importants tels que la Révolution française, comme tu l'évoquais. On méconnaît ce qui a fait que petit à petit ça s'est édulcoré et qu'on a perdu ces principes premiers qui pouvaient être déjà des fondements écologistes.
Exactement. Exactement, parce qu'on a perdu notre rapport au passé. C'est-à-dire que il y a une ou deux générations, par exemple, vous étudiez à l'école des grands auteurs type Victor Hugo ou George Sand, qui eux-mêmes avaient eu des propos très écolos avant l'heure. Victor Hugo, c'est le père du biomimétisme quelque part. George Sand a eu des textes de la défense de la forêt de Fontainebleau qu'aurait pu écrire Camille Etienne aujourd'hui. D'ailleurs, on organise des spectacles où Camille Etienne lit des textes de George Sand sur fond de piano avec l'écologie culturelle. Donc, on a un passé qui est riche. L'écologie, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça, il faut le répéter parce que pour certaines personnes, la nouveauté fait peur.
Tu as raison.
Donc, en déployant ce discours-là de ouais, l'écologie ne date pas d'il y a 30 ans, hein, ouais. Ça ne date pas du rapport Meadows. Voilà, l'écologie, chaque période a eu ses penseurs de l'écologie. On a eu des choses chez Platon, on a des récits où on a des descriptions de la Grèce avant et au fil de l'hellénisation, mais en gros, en Grèce, à moins 600 ans, vous avez des forêts et des lions. Voilà. Et, Quand les Grecs vont en Libye, ils ont l'impression d'être au Jardin d'Éden, parce qu'il y a toute une bande d'arbres qui grouillent de vie, qui grouillent d'animaux. Bon, ben voilà, on a coupé ces arbres-là, donc on a entraîné de la désertification. Et ben aujourd'hui, la Libye, c'est un désert, quoi. Clairement, bon, même la bande littorale est un désert. Donc oui, effectivement, on a perdu notre rapport au passé. Et ça, c'est une victoire majeure du néolibéralisme sur le plan culturel. C'est-à-dire que le néolibéralisme, quelque part, c'est aussi déraciné. Parce que si vous êtes déraciné de votre passé, et notamment de la culture du recyclage, hein, enfin, je veux dire, là, on parle des grands auteurs, mais il y a aussi la culture populaire. Moi, mes grands-parents qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale quand ils étaient enfants, quand j'étais chez eux petit, si je laissais la lumière allumée, je me prenais une traha, quoi. C'était bon, il fallait faire des économies. Les économies de flux et d'énergie, quelque part, c'était de la culture paysanne populaire de base. On ne vivait pas dans l'opulence. Là où les générations qui arrivent après, qu'on grandit dans une certaine opulence matérielle depuis les 30 glorieuses, etc., sont beaucoup plus laxes hein, sur le chauffage. Donc, comment dire, la sobriété...
On a perdu aussi la notion de la valeur ou du coût de certaines choses qui apparaissent comme des commodités, alors que ce ne sont pas des commodités, parce qu'on a perdu finalement la notion du prix de certains objets, certaines consommations d'eau, d'énergie.
Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est l'effet perverse de l'opulence, quelque part. Voilà, et le néolibéralisme, quelque part, a intérêt à ce que vous soyez le plus dépensier possible, vous soyez le plus débranché de cette culture populaire de la sobriété, quelque part. Nous, en France, il y a 3-4 générations, la majorité des gens étaient paysans. Le paysan, qui vit au rythme des saisons, il ne gaspille pas. Voilà. Donc, ça, c'est cette culture-là qu'on est en train de perdre depuis 30 ans, hein, grosso modo. Ça va de plus en plus vite, maintenant, c'est avec TikTok, avec l'instantanéité des réseaux sociaux, sans pouvoir faire le vieux react. Mais voilà, donc pour nous, l'enjeu, si vous voulez, c'est de repluguer la culture du futur dans ces trois dimensions, passé, présent, futur. Voilà. Parce que les branches d'un arbre sont proportionnelles à la taille de ses racines. Donc voilà ce qu'on essaye de faire avec l'écologie culturelle.
Du coup, tu me vas venir, écologie culturelle, j'ai entendu... culture populaire, tu as cité de nombreux auteurs. Le rôle de la musique, comment tu perçois le rôle de la musique aujourd'hui? Alors peut-être passé, c'est peut-être plus compliqué, mais on dit régulièrement dans Music for Planet que finalement, une grande partie des courants musicaux, que ce soit le blues, le jazz, le rock, le rap, c'était d'abord des revendications sociales, historiquement, aux États-Unis, en Europe, etc. Et il y a une question un peu fondamentale qui est, elle est où la revendication écologique dans la musique? Il est où le nouveau courant musical qui porterait demain un peu plus l'écologie? Il y a un petit peu aujourd'hui un silence assourdissant sur ce sujet-là. Comment tu perçois les choses?
Alors, je connais pas si bien que ça le monde de la musique contemporaine. Je suis pas branché sur la radio, etc. Donc je vous crois quand vous dites qu'il y a un gros manque là-dessus. Après, je vois qu'il y a des artistes qui sont quand même très connectés au vivant, que ce soit Gaël Faure que vous avez invité, ou même Pomme, ou d'autres artistes qui sont très populaires et qui font beaucoup de vues aussi. Moi, ce que je peux apporter comme plus-value là-dessus, c'est plutôt des explications d'ordre scientifique, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la musique peut déclencher de l'émotion et pourquoi cette émotion peut amener un changement. Alors, peut-être pour... Je me lance dans une démonstration qui est assez inédite, mais que je tenais à vous partager. Je vous remercie pour cette occasion-là, parce que elle me semble importante. Mais déjà, il faut comprendre un peu comment fonctionne le cerveau. Pour simplifier à outrance, votre cerveau, c'est deux entités. C'est votre conscient et votre inconscient. C'est le même cerveau, c'est le même organe, si vous voulez. Sauf qu'en parallèle, vous avez votre conscient et votre inconscient qui fonctionnent selon des longueurs d'onde différentes. Des fréquences différentes. Déjà, quand on parle de fréquences, on sent qu'on va parler de musique derrière. Mais par exemple, votre inconscient, il fonctionne typiquement sur des fréquences delta. Et autres, des fréquences qui sont très lentes, avec peu de cycles, qui font entre 0,5 et 4 Hz. Là où votre cerveau conscient, en parallèle de votre inconscient, fonctionne sur des fréquences plus élevées, alpha, bêta, qui sont au-delà de 7 Hz, etc. Donc on l'a découvert récemment, si vous voulez. Le fait que vous avez votre cerveau conscient et inconscient qui fonctionnent en parallèle, mais juste avec des fréquences de communication différentes. C'est comme si vous aviez deux postes radio quelque part dans votre cerveau. Avant, on pensait que le cerveau se découpait par zone. Voilà, on pensait, c'était la théorie du cerveau triunique qui disait, voilà, vous avez votre cortex préfrontal où est la rationalité, le conscient, puis vous avez votre système limbique qui est le siège des émotions, etc. Alors, c'est en partie vrai, en partie, en fait, toutes les aires du cerveau sont toujours sollicitées par l'inconscient et par le conscient. Bref, donc si vous voulez, votre conscient, c'est la petite voix que vous avez dans la tête. Vous avez l'impression que vous êtes votre conscient. Vous confondez votre conscient avec votre moi-je. Donc votre conscient, lui, il est rationnel. C'est-à-dire que son langage, c'est le langage verbal, c'est le langage logique. C'est le langage qui prend du sens au fil du temps. C'est la parole, quoi. Votre petite voix, elle vous dit des phrases. Et les phrases, elles prennent du sens au fil du temps. Donc c'est un langage qui est logique. Par opposition, votre inconscient... Son langage, il est analogique. L'inconscient, il fait des liens entre les choses. Et souvent, il fait des liens entre des images ou des sons et des émotions. Le langage de votre inconscient, c'est les émotions. Et ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est que votre inconscient, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que votre conscient. Donc, fatalement, vos émotions sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que votre conscient, que votre logique, que votre rationalité. Et ça se comprend très bien, c'est-à-dire que les parties justement du cortex préfrontal, du cortex externe, se sont développées plus tard dans la sélection naturelle quelque part. C'est-à-dire que à la base on était des reptiles, d'où le cerveau reptilien. Mais si vous voulez, le cœur de votre cerveau, donc cerveau reptilien et système limbique, qui est vraiment là où vous avez le plus de connexion entre vos différents sens et émotions. Comme animal, il doit vous préparer très vite à réagir au danger. Il doit très vite associer une image, l'image d'un tigre, avec une émotion. Bon coup de flip, quoi. Bon mélange cortisol, noradrénaline pour courir très vite ou se battre. Vous voyez, donc, si vous voulez, l'image et l'émotion est plus importante pour survivre que ce qui vient après, c'est-à-dire la réflexion logique. Donc voilà, nous on vient de là. Donc forcément, les millénaires d'évolution ne suffisent pas à gommer cette détermination. On est toujours très très émotionnel et assez peu rationnel. Et même les plus grands scientifiques d'entre nous, hein, je veux dire, tout le monde a ses biais cognitifs. Les biais cognitifs, on en parle beaucoup, mais quelque part la plupart d'entre eux sont juste des biais de simplification du monde, où votre cerveau sélectionne les informations qui l'arrangent pour valider sa thèse, parce que c'est moins énergivore que de prendre en compte tous les paramètres. Bon. Donc voilà, une fois qu'on a dit que l'inconscient était beaucoup plus fort que conscient, une fois qu'on a dit que le langage de l'inconscient, c'est les émotions, il faut comprendre qu'est-ce qui suscite des émotions. On a parlé du rôle des images. Les images, c'est 80% du flux d'informations que reçoit le cerveau. Votre inconscient, si vous voulez, il traite 40 000 bits d'informations par seconde. C'est énorme. Il n'en fait remonter à votre conscient que 40. Donc, il y a un facteur 1000 entre les deux. C'est-à-dire que votre inconscient brasse 1000 fois plus d'informations que ce que votre conscient peut traiter. Donc c'est-à-dire que votre inconscient, il puise en continu dans votre environnement beaucoup d'informations qui proviennent de ces 7 sens. Je dis 7, pas 5, parce que on a découvert récemment que vous avez en plus l'interoception, donc c'est le fait de ressentir à l'intérieur vos organes. Quand vous faites de la méditation, vous ressentez vos organes, vous ressentez des parties de votre corps, vous faites de l'interoception. Et la proprioception, c'est votre capacité à vous percevoir dans l'espace. Donc ça, ce sont des sens en plus, des 5 premiers qu'on connaît tous. Et puis on a d'autres sens qui sont moins connus, qui sont moins définissables comme sens, pour l'intuition par exemple, très mystérieux. Bref. Donc, ces 7 sens, au moins, vous apportent une quantité faramineuse d'informations et votre cerveau, de manière inconsciente, il filtre toutes ces informations. La plupart de ces informations, c'est des images, ou vues directement ou mentales. Le cerveau ne fait pas la différence entre des images vues ou des images mentales. C'est pour ça que quand vous visualisez en méditation, vous avez les mêmes effets dans votre corps que ce que vous voyez, ou quand vous refaites la scène d'une dispute avec votre conjoint la veille, vous émettez le même stress que quand vous vivez votre dispute, quand vous la voyez directement. Mais il y a les sons aussi. Les images, ça fait beaucoup, mais les sons, dans les 20% restants, ça fait aussi beaucoup.
Et je pense que les sons aussi produisent des images inconscientes. C'est-à-dire que quand Exactement, tu fermes les yeux, enfin même les yeux ouverts, quand tu écoutes de la musique, tu te projettes, et souvent tu te projettes dans un univers où tu as de l'image qui vient avec le son. C'est un souvenir, c'est...
Exactement. Alors, donc, ça peut déclencher des images par analogie, par association. Où votre inconscient va faire le lien entre ce son que vous avez écouté petit et la scène que vous avez vécue. Votre Madeleine de Proust, quoi. C'était Noël, un réveillon, il y avait cette musique-là, on était bien, on était en famille, il y avait de l'amour. Je réécoute cette musique, ça redéclenche ce souvenir-là.
Ouais.
Bon, ça, c'est évidemment une des manières que la musique a sur... Mais là où on peut aller plus loin, c'est qu'il y a un continuum entre les images et le son. C'est-à-dire que le son, c'est entre 20 et 20 000 Hz. Voilà. Vos oreilles peuvent détecter dans le champ de fréquence, dans le champ électromagnétique, les ondes qui sont entre 20 et 20 000 Hz, et ça, traduit par vos tympans et vos différents nerfs, ça donne les sons. Mais plus loin dans votre champ électromagnétique, vous avez des longueurs d'onde qui correspondent à la lumière, enfin qui correspondent aux différentes couleurs. Par exemple, le rouge peut être aussi mesuré en Hz, à un facteur 10 puissance 14 Hz. Donc si vous voulez, les couleurs, c'est de la fréquence, mais beaucoup plus élevée que les sons. Mais on comprend là qu'en fait, la lumière, donc les images que vous pouvez voir et les sons, quelque part, c'est le même continuum d'ondes qui est analysé différemment par vos différents capteurs, vos différents organes récepteurs. C'est pour ça que quand vous êtes dans des états élargis de conscience, par exemple quand vous prenez de l'ayahuasca ou de la psilocybine, vous pouvez voir les sons, vous pouvez entendre la lumière.
J'adore.
Les sons, les sens, si vous voulez, se mélangent et ça s'explique très bien. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a au-dessus en termes de fréquence que la lumière? Donc, la lumière, ça commence au violet, ça finit au rouge, et entre les deux, vous avez l'arc-en-ciel. Au-delà du rouge, vous avez les infrarouges. Les infrarouges, c'est de la chaleur. Voilà, si vous voulez, ce qui vous réchauffe avec le soleil, ce sont les infrarouges que réverbère la lumière en rebondissant un petit peu partout. C'est ce qui crée l'effet de serre aussi. C'est les infrarouges de la lumière qui rebondissent et qui sont emprisonnés dans l'atmosphère par trop de CO2, donc ça rebondit, de vapeur d'eau. Bref, donc, voilà, ce qu'il y a au-dessus de la lumière, tout ça n'est qu'énergie. La preuve, c'est que au-dessus du rouge, vous avez de la chaleur. Et si vous prolongez encore votre spectre de, fré- conséquence, vous avez la matière. La matière, quelque part, c'est de l'onde densifiée. Et ça, c'est ce que nous ont appris nos grands physiciens. Ça a donné le prix Nobel en 27 de Louis de Broglie, qui est un physicien français, qui était le premier à démontrer ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que chaque atome, par exemple, un corpuscule de différents éléments, de photons notamment, émet une onde. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'une onde peut faire résonner un atome. Chaque atome émet une onde précise. Par exemple, l'hydrogène a sa fréquence associée, voilà. L'or a sa fréquence associée, etc., etc. Et inversement, si vous faites vibrer cette fréquence précise, vous pouvez faire vibrer les atomes qui sont sur cette fréquence-là. Un peu comme la résonance en musique, c'est le même principe. De toute façon, tout est résonance, tout est fréquence. Donc ça, c'est Louis de Broglie qui nous l'a démontré, la dualité onde-corpuscule. Chaque particule est aussi une onde, c'est la base de la physique quantique. Lui, il s'appuie là-dessus sur les travaux pionniers de Planck et d'Einstein, hein, qui ont chacun eu le prix Nobel pour la relation Planck-Einstein en 18 pour Planck et en 21 pour Einstein. Mais en gros, ce que Planck et Einstein disent, c'est plus ou moins la même chose. Ils disent l'énergie d'un photon, l'énergie de la lumière. On avait compris que la lumière apportait de l'énergie, mais on ne prenait pas trop, parce que la lumière, c'est invisible, il n'y a pas de matière derrière. Donc il faut bien qu'il y ait un truc qui véhicule de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a inventé le photon, et on ne savait pas vraiment si c'était une particule ou une onde, mais elle apportait de fait de l'énergie. Donc ce que nous dit Planck et Einstein, c'est que l'énergie d'un photon, elle est proportionnelle à sa fréquence et inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. Donc on voit bien que l'énergie du photon, elle est à la fois liée à la fréquence et à la longueur d'onde. La couleur, on l'a définie en longueur d'onde. Votre spectre de l'arc-en-ciel, c'est des différentes longueurs d'onde. Donc on voit bien que fréquence, donc musique, les sons, que la lumière, que la matière, l'énergie, tout ça est lié. C'est un continuum de fréquences. De toute façon, tout est fréquence, comme expliquait Nikola Tesla ou Einstein, hein. Et la matière, c'est de la fréquence densifiée. Voilà. Et pourquoi je vous explique tout ça?
On a un super récepteur avec nos sept sens, sensibles à toutes ces fréquences.
Exactement. Et qui traduisent toutes ces fréquences, tantôt en sensation de toucher, parce que si la matière, c'est la fréquence... Voilà, tantôt en vue, puisque la lumière sont des fréquences, et tantôt en ouïe, parce que le son sont des fréquences. Et entre ces petits champs de fréquences que vous pouvez capter, il y a des champs que vous ne pouvez pas capter, qui sont invisibles, qui sont indétectables consciemment. Par exemple, les ondes radio, c'est des ondes qui sont plus élevées que le son, mais moins élevées que la lumière. Ça se compte en gigahertz. Et donc c'est des ondes qu'on émet et qu'on reçoit dans les radios qui parasitent pas nos sens, mais qui vont bien donner un signal. Voilà. Donc bon, tout ça, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Je vais faire le lien avec la musique. C'est que si on comprend qu'il y a un continuum entre matière et onde, on comprend que la musique peut avoir un effet direct sur la matière et notamment sur le corps. Et notamment sur la génétique. Pourquoi ? Ça, c'est le champ qu'on appelle la génodie. C'est un néologisme qui est une contraction entre génétique et mélodie. La génodie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que dans vos cellules, vous avez des organites, hein, ces petits organes des cellules, qui produisent des acides aminés. Les acides aminés, c'est les petites briques du vivant. C'est les petites briques que votre organisme va utiliser pour construire ses protéines, dont les hormones sont des protéines, pour construire un peu tout ce dont il a besoin pour votre corps, les brins d'ADN, etc. Donc, ces acides aminés, c'est des petites briques, c'est des petites molécules, donc faites d'atomes. Et comme je vous l'ai dit, chaque atome a sa vibration propre. Donc, ce que nous dit la génodie, c'est que ce qui va déclencher la production d'acides aminés dans une cellule, c'est un signal électromagnétique, c'est une fréquence qui correspond à le déclencheur de l'atome, qui vont donner les molécules de cette... en gros, si je résume, c'est la fréquence, c'est le son, qui déclenche la production dans la cellule d'acides aminés. Et si vous produisez différents acides aminés dans votre cellule parce que vous avez produit différents sons, ces acides aminés vont se combiner en telle ou telle protéine, telle ou telle hormone. Donc en gros, si vous développez la bonne mélodie, vous pouvez déclencher dans la cellule la production de telle ou telle substance qui va avoir un impact sur votre organisme. Et ça, on l'a découvert aussi en observant comment fonctionnait la nature, notamment le rôle du cuicui des oiseaux et du bourdonnement des insectes, mais qui en fait, on s'est rendu compte que ça stimulait la croissance des plantes. Parce que le cuicui des oiseaux, c'est un ensemble de mélodies. Au printemps, ça gazouille de partout. Hein, tweet en anglais, Twitter, c'est un gazouillis. Mais ça gazouille de partout. En fait, c'est un ensemble de mélodies qui vont stimuler dans la feuille, dans les cellules de la feuille et dans les organismes, la libération de différentes hormones, notamment des hormones de croissance, notamment l'auxine. L'auxine, c'est une hormone de croissance des plantes qui dope la production de fruits, qui est constituée de seulement deux acides aminés. Donc c'est très simple à produire, si vous voulez, l'auxine. Et donc, bizarrement, quand le printemps revient, quand les conditions, l'eau revient, eh bien, c'est comme si les oiseaux encourageaient les plantes à produire de la matière, à pousser, pour produire le garde-manger. Hein, les oiseaux sont... Voilà. C'est à la fois très poétique, c'est très beau. Évidemment, il est possible que les oiseaux ne fassent pas ça consciemment, mais de fait, la sélection naturelle a orchestré tout ce concert du vivant, mais qui fait que, on a une action directe des mélodies, et la musique classique s'inspire beaucoup des bruits de la nature, hein, c'est un ensemble de notes, comme le cucu des oiseaux est un ensemble de notes. Donc, on a des chercheurs qui essayent de traduire ça quelque part qui essaye de comprendre les interactions entre la musique et le corps. Et il se trouve que quand vous écoutez certains morceaux de classique, Canon de Pachelbel par exemple, mais en fait, on a découvert que certaines personnes cicatrisaient mieux, que l'acide lactique, a priori les canons de Pachelbel sont liés au fait d'évacuer l'acide lactique. L'acide lactique, c'est ce que vos muscles produisent quand ils travaillent trop, c'est ce qui fait vos crampes. Ce qui fait la sensation d'acidité dans le corps après l'effort. A priori, si vous mettez les canons de Pachelbel, vous allez vous décramper plus rapidement. Bref. Mais c'est comme si dans les grands compositeurs, vous aviez eu des grands initiés qui, consciemment ou intuitivement, avaient développé des mélodies qui produisaient des effets sur le corps. Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la génodie. C'est l'action de la musique, de la mélodie sur l'expression des gènes. D'accord ? Parce que quand on entraîne la stimulation de molécules, d'hormones, etc., on réveille des gènes, on actionne des gènes. Mais, c'est là où je vais finir mon grand tunnel, mais ce qu'on a découvert aussi plus récemment, et ce qui maintenant fait un peu loi dans la génétique, c'est le champ de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a au-dessus des gènes. En gros, c'est l'épigénétique, c'est tout le champ qui étudie l'influence des émotions sur votre expression génétique. Très concrètement, on comprend maintenant que les émotions, par exemple le stress, va entraîner l'expression de tel ou tel gène. Si vous stressez une maman souris pendant qu'elle est en gestation, les petits souriceaux, au fil de leur vie, vont avoir tendance à accumuler plus de lipides, plus de graisse, à grossir plus vite, parce que la maman a eu faim pendant qu'elle était en grossesse. Si vous stressez une maman hirondelle avec la présence d'un faucon avant qu'elle ponde ses œufs, les petits hirondellos, je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, auront des ailes 15% plus longues que leurs congénères dont la maman n'a pas été stressée par la présence d'un faucon. Donc c'est des bébés qui pourront voler plus vite, mais moins longtemps, pour échapper à un prédateur. Voilà. Et en fait, ça c'est transmis par les gènes. Jusqu'à présent, les scientifiques ne comprenez pas pourquoi il y avait 85% de vos brins d'ADN qui n'étaient pas codants, dans le sens qui n'expliquaient pas comment se foutait en place votre corps, quoi. Il n'y avait que 15% des gènes qui expliquaient la couleur de vos cheveux, de vos yeux, qu'on arrivait à corréler avec l'expression génétique pure de votre corps, quoi, de votre matière. Et 85%, on ne savait pas trop. Donc les scientifiques appelaient ça du trash DNA, de l'ADN poubelle. Mais la nature ne fait jamais rien au hasard. La nature ne va jamais dépenser d'énergie pour rien. C'est bien que cet ADN, il sert à quelque chose. Et en fait, on a découvert que cet ADN-là, justement, stockait la mémoire traumatique, enfin la mémoire émotionnelle de Voligny. De là devient le transgénérationnel, et que ces gènes-là vont être activés comme vos gènes normaux par ARN, mais en fonction de vos émotions. Vous éprouvez une émotion, que ça peut aller d'une scène choquante, je sais pas, vous assistez à une bagarre, en fait ça va réveiller un stress enfoui, un traumatisme lié à une bagarre dans votre lignée, et ça, vous allez paniquer et partir en courant, à juste un bon repas qui met des émotions positives et qui réveille dans votre génome sûrement une émotion très positive. Voilà, bon. C'est ce qui explique typiquement que on est très déterminé par les traumatismes de nos ancêtres, hein, ceux qui ont des grands-parents, qui ont connu la guerre par exemple, qui ont connu le manque. Parfois ils peuvent développer des tendances à l'accumulation, un peu la peur du frigo vide, ou tout un tas de névroses, on est tous névrosés, hein, voilà, mais de névroses, mais qui sont liées à ces traumatismes-là. Ou alors, un père qui a été violent, on hérite de méfiance vis-à-vis de l'homme, avec un petit H. Bon, donc, on a cette mémoire génétique, mais puisque je vous expliquais qu'avant, la musique, les sons pouvaient activer de la mémoire génétique pure, elle peut évidemment aussi activer de la mémoire épigénétique, activer directement des émotions liées à la lignée. Donc c'est là où je boucle avec votre question, c'est qu'il y a un champ d'études scientifiques qui débute, qui explique scientifiquement pourquoi est-ce que telle ou telle musique nous renvoie à des émotions plus ou moins fortes. Peut-être que un grand-parent qui écoutait du Wagner, parce que c'était la radio d'Hitler, et que en fait associé à de la peur, parce que c'est la débâcle de 40, etc. En fait aujourd'hui, je sais pas, vous écoutez du Wagner, ça vous plaît pas du tout. Quoi. Je caricature, mais ce champ-là des mémoires épigénétiques liées à la musique que vous écoutez, et est-ce que ça déclenche en vous, existe. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est important de préciser que tout ne se résume pas à ce qu'on peut expliquer scientifiquement. Le monde serait pas très joyeux sinon. Je vous expliquais un truc, c'est très rationnel, c'est très cartésien, quelque part très scientifique, même si ça va parfois au-delà des travaux qui sont validés par des comités de lecture, parce qu'il faut aussi voir ce que nous produisent les avant-gardistes. En science, c'est toujours les avant-gardistes qui font avancer le schmilblick, hein. Einstein, Planck, Broglie, dont je vous ai parlé, qui ont tous été prix Nobel, avant d'être prix Nobel, ils ont tous été considérés comme fous.
Controversés, voilà. Considérés comme fous.
Voilà. Bon, bref, donc toujours écouter les... Donc, tout ça pour vous dire que on va pas se prendre la tête, il faut savourer la joie de la vie, d'essence, pour ce qu'il est, et pas chercher à comprendre tout le temps comment tout ça fonctionne, voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a potentiellement un substrat qui explique une partie, voilà. Je pense qu'il y a une autre partie qui n'est pas explicable. De toute façon, l'énergie d'amour, des choses qui tiennent du divin en nous et en toutes choses. Voilà, je suis plutôt d'une tradition rousseauiste, c'est pour ça qu'on a cofondé l'Institut Rousseau avec des copains. Bref, mais l'amour, et notamment l'amour lié à la musique, au goût, aux couleurs, aux peintures, à l'art, à la cuisine. Et à l'amour, évidemment, entre des personnes. Tout ça, on va pas chercher les explications scientifiques de tout. Il faut pas être ultra déterministe, il faut savoir aussi les apprécier comme elles sont.
Je rebondis juste sur les quelques images que tu donnais, puis j'avais une question, je pense qu'on conclura sur ces éléments-là, mais il y a quelqu'un que j'estime beaucoup, on en parlait tout à l'heure en préparant l'interview, qui s'appelle Gilles Boeuf. Et lorsqu'on parle de biodiversité avec Gilles Boeuf, il préfère parler d'harmonie ou désharmonie. Mmh. Et tout à l'heure, ce que tu disais sur le chant des oiseaux qui vont se rendre compte ou vont contribuer à stimuler certaines hormones de croissance dans des plantes, c'est aussi cette forme d'harmonie. Quand tu disais aussi qu'il y a des choses qui sont de l'ordre presque de la poésie, je trouve que le mot harmonie est juste. Par rapport à ce que tu décrivais, les découvertes, on considère donc que Darwin est passé à côté d'un gros sujet dans sa théorie, qui était le rôle des émotions et pourquoi pas le rôle de la musique dans l'évolution.
Oui, mais c'est complètement lié, si vous voulez. C'est que Dans la savane, si je suis le gars qui court le moins vite de la tribu, qui a un tigre à dents de sable derrière, ben en fait, je vais me taper un gros coup de stress, un gros trauma. Le tigre ne m'aura pas attrapé, mais j'aurais eu bien peur parce qu'il n'était pas loin. Ce traumatisme-là, si je le transmets génétiquement par l'épigénétique à mon enfant, ben en fait, l'enfant, peut-être qu'il n'aura pas les jambes, voilà, parce que génétiquement, voilà, ça c'est mon patrimoine, il aura les jambes aussi courtes que moi. Mais par contre, s'il entend un craquement, en fait, il va se mettre à courir en premier, parce qu'il va avoir un bon coup de flip. Vous voyez, donc en fait, si vous voulez, tout ce que je vous explique sur l'épigénétique, la mémoire émotionnelle, est un catalyseur de la sélection naturelle. Darwin, c'est un précurseur de beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a eu des intuitions qui ont fait grandement avancer la compréhension de la biologie. Donc voilà, c'est Darwin, on lui doit beaucoup, c'est des penseurs comme ça, c'est comme Marx par exemple. Marx, on lui doit beaucoup parce qu'il est premier à expliquer les lois tendancielles du capitalisme. Il faut pas se résumer à Marx, c'est-à-dire que Marx c'est le pilier d'un édifice qui est beaucoup plus buissonnant, pour reprendre une métaphore de sélection naturelle. Mais oui, non, la nature n'est qu'harmonie de toute façon. Et là encore, on a un champ de la science qui s'appelle la biophilie, qui est en plein développement, qui consiste à étudier un peu comment est-ce que la nature nous fait du bien. Voilà, la biophilie, c'est ce qui nous... par exemple, le fait que vous vous baladez en forêt, vous ingérez, vous inhalez des phytoncides, qui sont des molécules volatiles, des microterpènes, qui vont avoir un effet anxiolytique, qui vont avoir un effet très positif sur votre système immunitaire. Voilà, c'est ce que les Japonais appellent le shirinyoku, les bains de forêt, c'est très bon, et ça dure longtemps.
Prescrit dans des cabinets médicaux de renom.
Exactement. Mais on se rend compte aussi dans cette biophilie que les sons ont un gros effet. Je vous parlais des cuquilles des oiseaux, mais que ce soit le bourdonnement des insectes pour les plantes. Mais moi, je suis sûr que demain, on fera des liens entre le cuquille des oiseaux et comment... En nous, ça crée ça libère des choses, des substances positives. Moi, j'en suis convaincu. D'ailleurs, ce qui fait dire aussi que l'écologie, c'est aussi du bien-être. C'est-à-dire que là, les oiseaux, vous les entendez plus chanter. C'est les printemps silencieux depuis 60 ans. Si on réintroduit de la nature en ville, qu'on entend davantage d'oiseaux, en fait, peut-être qu'inconsciemment, ça nous fait du bien aussi. C'est comme le fait de voir du vert dans son champ visuel. Du vert végétal, ça diminue le stress, ça diminue le cortisol, dans même de 15%, donc ça peut aller loin. C'est significatif, 15% de cortisol en moins, parce que vous avez une masse critique de plantes ou de vers dans votre champ visuel. Le pire, c'est les bureaux blancs, par exemple. Un bureau blanc, qui est un peu la norme maintenant, un environnement aseptisé en termes de couleurs, ça ne vous transmet pas grand-chose. Les couleurs transmettent des émotions. Le rouge, la force, l'agressivité. Le vert, c'est la relaxation. Le végétal, ça envoie des archaïsmes profonds, mais qui rassurent. Du coup, le vert est aussi une couleur de la créativité, comme le bleu. Le bleu du ciel, on a des pigments dans la rétine qui sont liés au bleu typique du ciel et qui, en fait, nous font du bien. Et de la même manière, je parlais des sons, mais en fait, on se rend compte que le bruit des vagues, les vagues opèrent par série de 7. C'est des lois mathématiques, vous avez des séries de 7 vagues. Et donc, si vous voulez, les rapports mathématiques entre ces 7 ondes, ne sont pas chaotiques, sont harmonieux. C'est la magie des mathématiques appliquées au réel, mais en gros, c'est quand les vagues sur le cerveau ont un effet berçant, ont un effet binaural. Le bruit de la mer, le bruit du ressac des vagues, qui est régulier comme ça, en fait, ça rend plus facile à votre cerveau de passer dans un état d'onde θ, en gros un état de relaxation, un état de méditation. Méditer devant la mer, ça va être plus facile que méditer dans votre appartement.
Alors tu me parles de tous les touristes l'été qui sont en train de s'endormir sur le...
c'est vrai que ça berce.
Le ressac.
Le ressac berce, de la même manière les cours d'eau. En fait, dans les cours d'eau, vous avez un ensemble de vortex créés par les pierres, etc. Et l'écho de tous ces vortex donne le bruit du cours d'eau. En fait, pareil, on se rend compte que c'est un effet binaural profond. Ça augmente votre taux vibratoire, en quelque sorte.
Pierre, vraiment, c'était très, très, très riche. Je pense qu'il faut qu'on conclue Alors je crois qu'on a commencé, tu me tutoyais, après tu m'as vouvoyé, ouais. Donc bon, peu importe, c'était la solennité du contenu. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. J'espère que nos auditeurs seront tout aussi intéressés par ce contenu très pointu, très étayé. Peut-être pour conclure, nous sommes Music for Planet. Tu m'as dit tout à l'heure que tu écoutais finalement peu de musique. Tu fais partie des rares personnes que je rencontre qui écoutent peu de musique. Est-ce que tu as un artiste Music for Planet? Est-ce que tu as une musique Music for Planet? Est-ce que quand même, de temps en temps, il y a des sons qui te... De la musique?
Je ne suis pas de marbre. j'ai un cœur qui bat. Mais évidemment, il y a la musique que j'écoute. Alors... Comme beaucoup, j'ai eu ma phase rap adolescent et maintenant je peux plus entendre ça parce que c'est trop agressif et j'aime bien les choses beaucoup plus harmonieuses et plus douces, etc. Mais alors parmi les gens que j'ai découvert récemment, et j'ai découvert lors d'une conférence et ça m'a bluffé. Alors c'est pas vraiment un musicien, mais si, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Toby, qui est un précurseur scientifique sur ce que lui appelle la musique des plantes. C'est-à-dire que Jean Toby a développé un appareil qu'il branche aux plantes, aux racines et aux feuilles, un capteur, qui va transformer le langage, le signal électromagnétique des plantes en musique. Donc, vous choisissez les instruments que vous voulez écouter pour tel ou tel signal électromagnétique. Vous avez un gros tableur, donc il bidouille son truc, et puis il augmente le volume, et là, on se rend compte que votre fougère, en fait, elle vous produit une jolie mélodie. On continue, la fougère, elle a son activité électromagnétique, hein, comme vous et moi, hein, c'est même plus que vous et moi, parce que la fougère, c'est 450 millions d'années d'évolution. Et du coup, en fait, si vous traduisez ça en instrument, ça fait une jolie mélodie. C'est assez bluffant, c'est-à-dire que vous retrouvez toutes les composantes d'une musique actuelle qui est harmonieuse. Vous avez les basses, vous avez les aigus, vous avez... Et encore plus fort, c'est-à-dire que... Donc, il nous branche ça au début de la conférence. Petit à petit, donc il fait sa conférence, il explique la théorie, machin, et puis en fait, la fougère, bon, c'est une plante de sous-bois, c'est une plante qui a besoin d'humidité. Donc la fougère commençait à avoir soif. Et donc là, on sent que le son devient plus aigu, moins harmonieux. Il prend son petit cheat d'eau, il arrose les feuilles, et là, spontanément, là, il touche à rien hein, sur son ordinateur, mais spontanément, la musique se met à changer pour donner quelque chose de beaucoup plus harmonieux, où on sent que les basses, donc ce qui correspond aux racines, sont beaucoup plus équilibrées. En fait, on croyait vraiment, enfin, vous pouvez presque danser sur cette mélodie. Et donc, non seulement déjà c'est très beau et c'est très poétique, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que lui s'est rendu compte que, en fait, en passant cette musique-là, typiquement à des animaux, il y a quelqu'un qui a fait l'expérience sur des chevaux, par exemple. Il y avait un cheval. Que tous les vétérinaires pensaient condamné pour une espèce de crampe à l'estomac, donc on ne savait pas d'où ça vient, bon, bref. Et donc, ils ont mis ce cheval 30 minutes dans un box avec ce système connecté à la fougère qui émettait du son, donc qui émettait une mélodie, et 3 mois après, le cheval était guéri. On ne sait pas ce qui s'est passé, si ce n'est que, en fait, donc ces travaux pionniers hein, de génodique nous disent que la fougère, elle capte le besoin de l'être vivant qui est dans son champ de proximité. Et pendant la conférence, ce qui était frappant, c'est qu'à un moment, la fougère se remettait à faire des bruits aigus. On ne savait pas pourquoi, alors qu'elle venait de boire. Et là, en fait, Jean-Toby a compris que c'était parce que derrière, vous aviez un petit érable qui avait soif. Donc il a aspergé un peu voilà, les plantes qu'il y avait derrière. Et la fougère s'est remise à faire un son harmonieux. Et donc, c'est non seulement... C'est très poétique, mais c'est comme si vous voulez, l'entraide dans le vivant est une constante. La compétition est plutôt une anomalie très fréquente, mais voilà, c'est pas la règle. Et donc, c'est comme si la fougère avait capté ce dont l'organisme du cheval vibrait comme besoin, parce que voilà, les plantes, c'est deux fois plus de gènes que l'homme. Hein. Tout ce qui est sédentaire, les plantes ont beaucoup plus de gènes parce que puisqu'elles ne peuvent pas fuir le danger, elles doivent avoir en mémoire beaucoup plus de façons de réagir. Donc ça peut être produire une molécule parce qu'il y a tel insecte qui vient, ça peut être un coup de vent, donc il faut que je rééquilibre, donc il faut que je sois prêt à produire des racines. Voilà. Bref, donc tout ça c'est encodé dans le génome des plantes qui est deux fois plus riche que le nôtre. Et la fougère, c'est la plante la plus ancienne. Donc c'est un génome qui est très 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 abouti. Et donc c'est comme si cette fougère, elle captait le besoin de l'être vivant dans le champ et qu'elle produisait une mélodie qu'elle pouvait elle-même entendre et donc calibrer pour soigner. Donc, et donc ils font des tests où ils baladent une fougère aussi dans un champ qui est parasité, qui souffre de voilà, un champignon, voilà, et en fait ça marche très bien. C'est-à-dire que les plantes, c'est comme si la fougère livrer une mélodie qui permettait aux plantes de produire leurs propres acides aminés, leurs propres hormones, on en revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui fait qu'elle va elle-même se soigner. C'est de l'entraide subtile du vivant, et moi ça m'a passionné. Et vous pouvez écouter, je pense, si vous tapez Jean Toby, musique des plantes, je pense que vous pourrez écouter des extraits, c'est assez bluffant.
Je propose à nos auditeurs qu'on trouve un extrait pour conclure cet entretien et concernant le rôle de la plante, pour ceux que ça intéresse. Je vous recommande ce magnifique bouquin du professeur Francis Allais qui s'appelle L'éloge de la plante et qui décrit aussi une partie de ces soutiens que peuvent faire les plantes entre elles et les plantes avec des animaux.
Et là-dessus, j'en profite pour faire de la pub, mais en gros sur Sator, on va proposer la première masterclass de 10 heures sur le génie de l'arbre. Opéré par Ernst Jürcher, qui est un des mentors de Francis Allais. Pourtant, Francis Allais est un mentor, mais c'est Ernst qui a préfacé le dernier bouquin de Francis. Donc, Ernst, c'est un des plus grands connaisseurs au monde des arbres et des secrets de l'arbre. Il a découvert beaucoup de choses, y compris dans la communication subtile des arbres. Et donc, on va proposer cette masterclass inédite où vous aurez tous les secrets, vous comprendrez le génie de l'arbre et comment est-ce que l'arbre nous inspire, nous, en tant que société, pour aller vers la résilience et le bien-être. Et puis on aura aussi une masterclass sur le génie végétal, donc le génie des plantes, avec Aina Kairos, qui est biologiste et ethnobotaniste. Donc elle s'est intéressée notamment à comment les plantes créent des centenaires. Voilà, tout ça à retrouver sur Sator.
Merci Pierre, c'était génial. J'ai pas d'autres mots. Un très grand merci pour ton temps et j'espère que ce podcast vous plaira. Merci beaucoup.